pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, ce soir, on va vous parler. Ce soir, on va vous parler d'immigration. D'immigration, pas qu'en France, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'on va vous parler de l'Europe. Je pense qu'on va commencer peut-être par dire ce qu'on pense de cette initiative du 21 par rapport à la loi en France. Ça n'a pas été glorieux. Ils pensaient qu'il y aurait des centaines de milliers de personnes. En fait, il n'y en a pas eu plus, voire moins. Que la semaine dernière, c'était pas les mêmes qui étaient dans la rue, puisque là il y avait quand même beaucoup de politiciens, d'hommes politiques. Enfin, c'est pas catégorique, hein, c'est pas péjoratif quand je dis politiciens. Il y avait très peu, beaucoup moins d'immigrés, puisque les associations issues d'immigration avaient décidé de ne pas y venir, puisque de toute façon elles avaient été écartées. Donc, alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que les premiers concernés sont écartés de l'organisation d'une manifestation qui les concerne au premier chef. Bon, c'est comme d'habitude, c'est la gauche française qui fait toujours la même chose.
Ouais, en plus, le rassemblement était au Trocadéro à Paris avec une seule banderole, liberté, égalité, fraternité, avec des discours assez minables. On l'avait dit hein, ici lors des précédentes émissions, l'objectif de ce rassemblement, c'était de demander au président de la République de ne pas promulguer
la loi.
Comment dire ça sans être grossier. Soyons grossiers, c'est vraiment le niveau zéro d'une réflexion sur comment on change les choses et comment les choses sont arrivées dans ce pays et d'une manière générale dans les sociétés, quoi. Alors, il faut pas non plus être, comme tu l'as dit, naïf. Il est évident que à l'intérieur de cet espace qu'on nomme la gauche, il y a des décompositions, ça fait quand même un petit moment, mais il y a surtout aussi des recompositions et que ça doit bien grenouiller quand même là-dedans pour savoir comment ça se passe. Il commence à y avoir quand même quelques pistes qui pourront être intéressantes puisque je le disais la semaine dernière, je crois, avant d'être interrompu. La prise de conscience de la nécessité de créer un rapport de force est quand même largement partagée. C'est-à-dire que malheureusement, on ne pourra pas se contenter d'un mouvement d'opinion. Et la question des Jeux Olympiques à Paris vient de plus en plus sur le devant de la scène et dans les conversations. En disant on devrait, il faudrait se saisir de ce moment pour pouvoir au moins créer des nuisances et en tous les cas profiter de cet instant pour mettre les pieds dans le plat,
Ça va pas être évident, parce que de toute façon, le pouvoir le sait, ça, de toute façon. Et d'ailleurs, quelle réponse ils ont? Bien évidemment, c'est les flics. Des flics par milliers, c'est moins qu'on puisse dire, qui sont prévus pour les Jeux Olympiques. Mais les Jeux Olympiques, c'est quand même 15 jours ou 3 semaines, je crois, plus les Paralympiques après. Donc, ça fait quand même beaucoup de temps où il est possible peut-être de faire des choses. Alors, pour la France, quand même, pour le truc franco-français, c'est quand même un truc à redire. Les choses qui ont été gagnées par l'immigration depuis les années 70, 80, ont été par les immigrés eux-mêmes qui se sont organisés et qui ont fait, comme tu dis, ils ont imposé un rapport de force pour faire en sorte qu'un certain nombre de choses se fassent. Entre autres, régularisation des sans-papiers. Il y en a eu pas beaucoup, il y en a eu surtout 81, 82. Il y a eu aussi la régularisation de 97 de chevènement, mais qui était moins importante que celle de 82. Ensuite, il y a eu quand même des trucs spécifiques qui ont été accordés, entre autres ceux qui étaient mariés avec un Français ou une Française, ceux qui étaient parents d'enfants français, il y a eu la bagarre contre la double peine. Ça, sont été des bagarres qui ont été gagnées, peut-être pas définitivement, puisqu'on va voir la nouvelle loi, on ne sait pas entre autres, ce qu'il en est, puisqu'il y a le Conseil constitutionnel qui doit prendre position dans 2 jours, 3 jours. Mais n'empêche qu'il y a les seules choses qui ont été vraiment gagnées, c'est l'immigration qui l'a obtenue. Alors voilà, donc je crois qu'il ne faut pas perdre de vue cette histoire, puisque de toute façon, il va falloir se battre. Maintenant, on va vous parler un peu d'Europe, puisque les élections européennes ont lieu dans 6 mois, même pas, qu'il y a un projet sur l'immigration pour faire en sorte que la forteresse soit respectée, nom de Dieu. Forteresse et Europe. Bon, elle ne le sera pas. De toute façon, ce n'est pas possible de faire une forteresse autour de l'Europe. Alors, ils ont essayé, ils y mettent les moyens, là. Hein. Ça coûte des sous, hein, puisque je vous parlerai tout à l'heure de Frontex. C'est quelque chose. Alors, ils n'ont jamais été d'accord au niveau européen. Ils le sont maintenant beaucoup plus, à part la Hongrie, qui joue à part. Mais il semblerait qu'il y ait un pacte qui est en train de, sur la migration et l'asile dans l'Union européenne, qui va être décidé dans ces prochaines semaines, en février. Ce pacte, on en a les grandes lignes, je vais vous en parler tout de suite. Bien sûr, faut pas se faire d'illusions, on n'est pas chez les Verts. Je dis ça parce qu'il y a une responsable des Verts qui est allée se mouiller sa chemise dans ces histoires de négociations. Et puis en fait, malgré sa bonne volonté, elle dit qu'il faut quand même y aller, il faut quand même faire en sorte que, voilà, c'est sûr que si t'es défaitiste, tu vas pas voter aux élections européennes, tu fais comme nous. Alors, au niveau européen, donc, le pacte. Alors, le pacte, déjà, c'est pas un truc nouveau, puisque c'est discuté depuis 3 ans. Et en plus, au départ, ça avait été évoqué en 2015, c'est-à-dire il y a 9 ans. Pourquoi en 2015? Puisque c'était la première fois qu'il y avait autant de réfugiés qui arrivaient en Europe avec ce qui s'était passé en Syrie. Alors après, maintenant, ils ont réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, les grandes lignes, je vous les donne. Il y aura un règlement sur le filtrage des demandeurs d'asile aux frontières de l'Union européenne. C'est-à-dire que le pays d'arrivée sera chargé de mener des contrôles, prélèvement d'empreintes digitales, photos, examen de documents d'identité, etc., pour ensuite orienter les personnes migrantes vers une procédure de demande d'asile classique, ou accélérée, ou bien rejeter leur demande. En cas de rejet, les migrants seront renvoyés dans leur pays d'origine avant de poser les pieds dans un État de l'Union européenne, ou un pays tiers, c'est important, un pays tiers, dans les plus brefs délais. On y reviendra tout à l'heure. La procédure concernera tous les arrivants, y compris les enfants à partir de 6 ans. Seuls les mineurs non accompagnés seront exemptés. S'ils sont exemptés, c'est parce que tout simplement, il y aurait un problème au niveau des trucs qui ont été signés, des accords au niveau de l'ONU, qui ont été signés, ça me ferait des ordres. Alors, pour assurer l'accueil pendant cette période de contrôle, qui pourra durer, paraît-il, 6 jours, le pacte d'asile et migration prévoit la création de 30 000 postes d'hébergement supplémentaires dans des centres d'accueil dédiés. J'ai mis ça entre parenthèses, entre guillemets, puisque effectivement c'est leur discours. Il y aura donc plus de détention aux frontières, notamment d'enfants, dans les centres fermés de type carcéral. C'est ce qui va se passer. Le deuxième point où ils sont tombés d'accord, c'est pendant ces 6 jours de contrôle. Les fonctionnaires utiliseront la base de données commune Eurodac, ouais, qui existe déjà, hein, faut-il le rappeler. Sauf que là, les données doivent être, paraît-il, plus fiables, plus complètes, et donc que dans les fichiers actuellement au service, dans les préfectures françaises, pour détecter les mouvements de migrants non autorisés, mais aussi d'éventuels supposés terroristes. Et oui, il faut quand même, faut pas pousser quand même, comme si les terroristes arrivaient comme ça, en tant que sans-papiers. Eurodac est donc un système d'information à grande échelle, comptant des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de protection subsidiaire et immigrants illégaux ayant pénétré au moins une fois sur le territoire de l'Union européenne. Tous ceux qui ont pénétré sur le territoire de l'Union européenne sont fichés. Bon, et ce fichier a des tas de terminaux. Il y en a un, par exemple, à la préfecture de Châlons. Alors, comme aujourd'hui, la base de données contribue à l'application de la Convention de Dublin sur le traitement des données d'asile. Alors, je vous dis clairement ce que c'est que Dublin. S'il y a quelqu'un qui est arrivé, par exemple, par l'Italie, et actuellement, hein, qui s'est fait contrôler en Italie, donc on sait qu'il est passé en Italie, même s'il n'a pas fait de demande d'asile en Italie, s'il arrive en France pour demander l'asile en France, on lui dira « Non, vous repartez en Italie ». Alors, il y en a qui ont le pot. Certains en sont passés par la Hongrie. Comme la Hongrie refuse, ils ne sont pas embêtés, ceux-là. Mais ils sont très rares. Généralement, quand on arrive en France, on passe par un pays européen. C'est souvent l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Benelux. Mais c'est souvent ces pays-là. Ensuite, ils sont donc, on leur demande, ils sont donc dublinés, on appelle ça les dublinés. Alors, que dire aussi? C'est-à-dire que, oui, au niveau de ces dublinages, jusqu'à maintenant, on pouvait jouer la carte, je sais pas, j'aime pas ce terme, le fait que votre frère, votre sœur, vos parents, vos enfants sont déjà dans un pays européen. Bon, et bien ça, pour les frères et sœurs, ça sera plus possible. Si tu as un frère ou une sœur qui se retrouve en France et que tu arrives en Italie, tu resteras en Italie. Voilà. Alors, à noter que nous sommes à la 3e version de Dublin. C'est ce qu'on appelle Dublin 3. Et qui ne sera pas du tout remis en cause dans ce pacte qui sera signé. Mais paraît-il qu'il sera plus efficace pour les gestionnaires des États européens qui auront plus de temps. Ah oui, ils auront plus de temps pour gérer l'histoire. Ils auront 20 mois. 20 mois pour vous convaincre ou vous rapatrier dans ce pays en question. Ensuite, le troisième point. J'ai dit qu'il y avait 5 propositions. La troisième, c'est les procédures d'asile seront plus rapides, plus efficaces. Bah oui, comme ils disent, ces technocrates et ces politiciens de l'Union européenne. Alors, si une personne migrante a échappé à la procédure de Dublin 3, elle sera confrontée à la procédure accélérée. Et cela ne dépendra pas de ce qu'elle a subi ou non dans son pays d'origine. En effet, tout dépend de sa nationalité. C'est incroyable, ça, c'est une histoire qui est soulevée par tout le monde. Normalement, la Convention de Genève, au niveau des droits d'asile, la nationalité n'intervient pas, ne doit pas intervenir d'ailleurs, c'est bien marqué. Eh ben là, ça oui, ça va intervenir, puisque si jamais dans l'Union européenne vous appartenez à un État qui n'a pas atteint 20% de réussite au passage de le truc d'asile, vous serez en procédure accélérée. C'est-à-dire que votre demande sera traitée en 12 jours. 12 jours. Alors, 12 jours, je me trompe peut-être. C'est peut-être 12 semaines. Je vais vous dire ça tout de suite. 12 semaines. Waouh. Bon, maximum. Alors, c'est quand même incroyable cette histoire des nationalités. C'est aussi, c'est 20% incroyable, quoi. Ensuite, la quatrième proposition. Les règles précédemment énoncées seront accompagnées d'un mécanisme de solidarité obligatoire. Alors ça, c'était un gros point, puisque, bien sûr, l'Italie, l'Espagne et la Grèce se plaignaient d'avoir énormément de gens qui arrivaient chez eux, puisqu'ils sont à une des portes de l'Europe. Et ben là, le problème sera réglé. Ils vont faire un quota, c'est-à-dire pour les demandeurs d'asile, il y aura tant pour tel pays, tant pour un autre, de manière autoritaire. Hein. C'est-à-dire que quand vous demandez l'asile, par exemple en France, si jamais il y a trop de demandes, eh bien vous serez rapatrié, par exemple en Belgique. Si vous arrivez en Italie, ben là, il y en a beaucoup qui seront rapatriés ailleurs, comme en Espagne et en Grèce. Et en plus, si le pays pour lequel l'Union européenne inflige ces demandeurs d'asile, ils peuvent refuser ces pays-là, mais ils paieront 20 000 euros par refus. Incroyable cette histoire quand même. Quand on regarde bien, pour accepter un demandeur d'asile, pour ne pas l'accepter, un demandeur d'asile, il faudra s'acquitter de 20 000 euros d'amende. C'est vraiment incroyable, quoi. Alors, ensuite, le dernier point, en cas de crise migratoire, je signale qu'il y en a eu une en 2015. Je pense pas que l'Ukraine, ça soit une crise migratoire, puisque, en fait, on considère que les Ukrainiens qui sont venus, qui sont partis d'Ukraine, vont revenir rapidement, paraît-il, hein, Bon, alors, si jamais il y a une crise migratoire importante, un cas de force majeure aussi, le pacte autorisera les États membres à s'affranchir largement du droit d'asile, que ça va être, et ouvre la porte à de nombreuses violations potentielles des droits, telles que le principe de non-refoulement, le recours effectif à une assistance juridique. Alors, je précise tout de suite ce que c'est que le principe de non-refoulement. Quelqu'un qui demande l'asile, qui arrive dans n'importe quel pays européen, on peut pas, l'État en question n'a pas le droit, normalement, de le refouler. Avant d'étudier sa demande. Bon. Attention tout de même, c'est pas ce qui se passe en réalité. Bon, alors voilà où on en est. Peut-être revenir sur un certain nombre de choses, sur la procédure accélérée. Je pense qu'elle existe déjà en France. J'en suis sûr qu'elle existe déjà. Elle concerne ceux qui sont ressortissants des pays dits sûrs. Actuellement, il y en a 13 pays sûrs. C'est décidé par l'OFPRA avec l'accord du Parlement. C'est vérifié par le Conseil d'État. À signaler que parmi ces 13 pays sûrs, il y en a certains qui ne respectent pas leur propre minorité, comme les Roms, par exemple. Je vise nettement le Kosovo, le Serbie.
Kosovo est considéré comme un pays sûr, ouais.
Oui, le Kosovo est
très sûr.
C'est très sûr.
Roumanie, Albanie également.
Oui, tout à fait. C'est incroyable. Alors, voilà. Alors, ensuite, que dire aussi? Vous pouvez, en France actuellement, et ça va ce que je vous ai dit par rapport à la procédure accélérée tout à l'heure avec les 20%, ça s'ajoute à ce qui se passe déjà. C'est-à-dire que si actuellement vous utilisez, le migrant utilise des faux documents ou présente plusieurs demandes sur plusieurs identités, c'est sûr que là, c'est la procédure accélérée et c'est le refus et c'est le retour au pays rapidement. Ce qui m'a fait marrer, si vous soulevez des questions qui ne sont pas pertinentes au regard de votre demande d'asile, actuellement en France, si vous faites des déclarations incohérentes, contradictoires ou fausses, et puis surtout, si vous êtes entré en France depuis plus de 90 jours et que vous n'avez pas demandé l'asile pendant ces 90 jours, eh bien là, vous êtes en procédure accélérée et généralement, vous vous faites refouler. Alors, ça, c'est important de signaler puisque c'est le cas qu'on rencontre le plus, puisqu'il y a des jeunes en particulier qui arrivent en France, qui s'imaginent, il n'y a pas qu'il faut attendre 18 ans pour demander l'asile, ce qui est faux,
Et ils attendent 18 ans, puis quand ils arrivent à 18 ans, qu'ils demandent l'asile, on leur dit, bah non, vous avez 18 ans, et vous êtes là, c'est une procédure accélérée, bon, c'est bon, ça, votre compte va être réglé en peu de temps. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai des tas de choses encore à dire, évidemment, mais on va peut-être faire une pause musicale.
Bah oui, après, on peut dire que les deux dynamiques principales qui sont à l'œuvre depuis quelques années, elles sont renforcées, confirmées, c'est-à-dire la délocalisation du traitement humain des demandeurs d'asile, hein, tu l'as dit, avec la création de zones tampons, hein, pour pas qu'ils rentrent, avec une sorte de sous-traitance, on va dire, même quasiment. Et puis une vision comptable, hein, très comptable de ce droit, qui est normalement un droit qui est régi par le droit international. Et on le voit bien en fait, hein, le droit d'asile, c'est quelque chose en fait qui est extrêmement politique et d'autre part qui a aussi une vocation super super sociale. Parce que restreindre comme ça et réglementer de manière aussi sévère le droit d'asile, c'est pas c'est la conséquence, c'est pas que ça va empêcher les gens de se déplacer, parce que les crises migratoires et les déplacements de population, ils sont inhérents à l'espèce humaine et à la communauté humaine. Faut-il rappeler que le PNUD, donc le programme des Nations Unies pour le développement, et l'ONU elle-même, estime qu'il y aurait entre 750 millions et 1 milliard de personnes qui seront concernées par des déplacements à cause des transformations du climat. C'est-à-dire qu'il y a des zones...
J'ai un truc à dire là-dessus. Ouais. Ils ne pourront pas demander l'asile pour ça. Parce que dans la loi internationale qui donne le droit d'asile de 1951... de Genève ne parle absolument, et c'est normal, ne parle absolument pas de ça. Et on se garde bien d'ajouter au niveau du droit d'asile les problèmes de climat. Ça c'est évident.
Hein. Bien sûr. Bah oui, c'est un peu, on va dire, le point aveugle quand même de tout ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se rapproche, qui est déjà là de toute façon, mais qui va s'amplifier, et qui est absolument pas pris en compte là-dedans. Mais alors le résultat de tout ça, c'est, je le répète, c'est pas que ça empêche les gens de se déplacer. Est-ce qu'on imagine que les gens, avant de partir en dans leur valise, ils vont sur le site de l'Union européenne et ils comparent les différents trucs comme les prestations sociales, etc. Enfin, c'est vraiment le degré zéro de l'intelligence humaine. Mais ça fabrique des gens qui sont en situation irrégulière. Voilà, c'est ça. C'est une gigantesque fabrique à sans-papiers qui jette les gens dans des situations administratives complètement ubuesques et folles. Et donc, qui les place dans des sous-conditions de vie dans la société, dans des conditions de sous-droit, et donc qui les transforme à la fois en chair à mafia d'une part, et puis en chair à patron de l'autre, et finalement la boucle est bouclée. On a donc l'utilisation d'un droit qui est en fait extrêmement politique, hein, puisque avant l'Europe et l'Occident c'était les gentils, hein, puisque les méchants c'était les rouges, hein. Donc
d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu le statut d'asile 1951,
c'est ça.
Quand c'était décidé à Genève, c'est parce que à cette époque-là, il y avait des dissidents. Et oui. Chez les rouges, qu'il fallait protéger, et le droit d'asile devait être fait pour ça.
Alors, il y en a eu un petit peu aussi quand il y a eu, pour les plus anciens qui se rappellent, le phénomène des boat people. Ah, on a accueilli quelques centaines de milliers de personnes en à peine quelques semaines, voire quelques mois. Et désormais, c'est nous qui foutons le bordel chez les Arabes et chez les musulmans en bombardant, en participant à la déstabilisation des sociétés et des États, on peut pas accueillir tout le monde, quoi. Enfin, accueillir, comme si on accueillait les gens s'il y avait des guichets accueil dans les...
des guichets accueil.
Ouais, tu parles à la gueule de l'accueil, hein, il est en bleu marine, l'accueil. ouais. quand il est pas en kaki. Hein. les hôtesses sont pas terribles. Hein. Ouais. Donc bon, voilà, c'est aussi toutes ces questions-là. Et évidemment, avec les majorités qui semblent se dessiner pour le moment au Conseil de l'Europe et au Parlement européen, on peut largement penser que ces données que tu viens d'énoncer vont encore se durcir.
Se durcir, oui, je pense. Ouais.
Allez, on reprend la respiration, puis
on fait une pause musicale.
On voit quelques détails.
Je voulais rajouter un truc, c'est par rapport à Dublin. Donc, Dublin, c'est...
On n'entend pas.
Voilà, c'était pas, oui, par rapport à Dublin. Donc, c'est, par exemple, la France refuse quelqu'un parce que il est passé par, un état balte, et donc il est renvoyé, donc la France le renvoie. Essaye de le renvoyer dans ce pays. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche dans les deux sens. Et donc, en fin de compte, il y a autant de gens qui sont renvoyés par la France dans le cadre de Dublin et que de personnes qui sont renvoyées par d'autres pays en France parce qu'ils sont passés en France. Et donc, c'est Dublin, c'est une pompe à fric. Ça coûte énormément cher pour un résultat qui est à peu près nul, quoi.
Et en plus, ça va durer 20 mois. Actuellement, ça dure 12 mois. C'est ce que tu dis là. Allez, on fait une pause musicale.
Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais spécifier et préciser? Parce que tout ça, quand même, ça va. Tu parlais de 30 000 personnes, de 30 000 places et tout ça. Ça va générer à la fois de la bureaucratie, mais aussi des besoins et des moyens.
Et puis aussi de la violence, puisque généralement, quand on fait des CRAS, qu'on va faire des CRAS, enfin, ça portera pas le même nom, puisque maintenant, ils ont trouvé un nom. C'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, c'est entre guillemets.
C'est l'hébergement, c'est ça ?
C'est pas l'hébergement, c'est, ça n'a pas d'importance. C'est pas le club méditerranéen. Hein.
Non, pas hein, vraiment.
Pas vraiment. Ça sera la même chose que les CRA. Donc, la différence entre un CRA et une prison, c'est que le CRA n'est pas géré par l'institution pénitentiaire. c'est géré par les flics, oui, voilà. Et par les flics des frontières en particulier. Ben là, ça sera pareil. Sauf que, bon, il va y avoir du monde, hein, puisqu'on attend, comme d'habitude, vu la situation dans le monde actuellement, il y a des tas de choses qui vont se passer, en particulier, comme tu disais tout à l'heure, des tas de gens qui vont vouloir migrer, qui vont vouloir aller ailleurs. Bon, ils ont un argument, l'Europe, qui est terrible. C'est l'agence Frontex. Alors, je vous explique ce que c'est que cette agence Frontex. On se doute bien que c'est un employeur de milliers de flics. Bah oui, c'est ça. C'est le bras armé, finalement, de la politique migratoire européenne. Ça a été créé en 2004. C'est opérationnel depuis 2005. Le siège est à Varsovie, en Pologne. C'est géré par l'Union européenne. Hein. Si, au début, il y a eu quelques centaines de personnes. Je crois qu'en 2019, on en était à 700 personnes, 790 personnes. Maintenant, on prévoit pour 2027, dans bientôt, dans 3 ans, on prévoit 10 000 personnes. 10 000, c'est énorme. Tout ça pour surveiller nos frontières. Ils ne font pas que surveiller. Hein. Ils font bien sûr, ils ont des drones, ils ont des appareils très sophistiqués pour repérer tous les bateaux qui sont bizarres, etc., pour pouvoir intervenir et les foutre dehors. Mais ils ont surtout pour fonction de mettre les gens dehors. C'est leur fonction principale. Alors, ne croyez pas qu'ils vont sauver des vies humaines. Hein. Lorsqu'il y a une embarcation de migrants qui coule quelque part, et s'il y a un bateau de l'agence Frontex dans le coin, c'est pas Frontex qui va bouger pour sauver ces personnes. Alors que normalement, il devrait le faire d'après le code de fonctionnement des États. Mais ça ne fonctionne pas, le droit international, les maritimes. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, entre autres, pour Frontex, pour nous et moi, on a une opération pas très loin d'ici, qui s'appelle Opal Coast, la côte d'Opal, hein, depuis décembre 21. Ils sont donc du côté de Calais. Ils ont des drones, un avion de surveillance aérienne, et ils assistent les autorités françaises et belges pour détecter et surtout intercepter les personnes exilées qui tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Donc on est directement concerné. Ils ont du boulot, mais n'empêche que ça sert à rien, puisque de toute façon, les gens continuent de passer. Hein, c'est ça aussi qu'il faut voir.
Toujours.
Donc. Alors après, au niveau du nouveau pacte européen dont je vous parlais tout à l'heure, il est évident que Frontex va avoir un rôle central pour faire en sorte que tout ça, ça soit respecté. Et ça coûte cher, je vous l'ai dit. C'est un truc, le budget. Et depuis sa création, depuis 2005, donc, il a été multiplié par 140. On en est à pratiquement 1 milliard d'euros aujourd'hui. Bon, donc voilà. Alors, il y a quand même des inquiétudes à avoir par rapport à Frontex, d'autant plus que ils sont là pour sécuriser les frontières européennes et ils le font avec violence, bien souvent, au mépris des droits de la vie et des personnes, en procédant à des vols collectifs d'expulsion. Et oui, c'est-à-dire que quand ils piquent des gens, ils les gardent, et puis quand il y en a assez suffisamment, ils font des charters. Et il y a des charters, il y en a eu depuis, je ne me rappelle plus les chiffres que j'ai vus, mais c'est absolument incroyable. Pour les charters, il y en a eu 140, je crois, charters. Qui étaient d'ailleurs la plupart du temps émanaient de 3 pays, Italie, Allemagne, Italie, Allemagne et France. Et oui, les Français, on est bons. Hein. Voilà. Donc, ils sont là donc pour faire en sorte de regrouper les gens pour faire des charters dans tel ou tel pays, dans tel ou tel continent. Voilà. Alors le Frontex, donc, ça a expulsé en 2022 25 000 personnes quand même. Hein, 25 000 personnes. Il y a eu 151 vols charter vers 24 pays. C'est pas du tout à négliger. Mmh. Alors ensuite, ce que j'ai à dire quand même, qui est important, c'est que on regarde un peu, on critique beaucoup, nous. Et mais qu'est-ce qu'on a à proposer ? Ben, on a un truc à proposer. Hein. Et là, c'est terrible. Si l'Union européenne voulait vraiment résoudre ce problème, ainsi que le problème des passeurs, on devrait, en toute logique, donner accès à toutes ces personnes qui veulent quitter chez eux, qui fuient leur pays, à des voies légales de voyage, c'est-à-dire à l'accès au visa. Tant que les pays riches garderont leurs frontières fermées et ne donneront pas de visa, les gens voudront venir en situation irrégulière avec les moyens du bord. Mmh. C'est évident. Donc il y aura des morts. Alors actuellement, ce qu'il faut savoir, c'est que de 2014 à 2023, le nombre de morts en Méditerranée s'est estimé à plus de 28 000 personnes. 28 000 personnes en 9 ans. Bon voilà, alors la liberté de circulation et d'installation, c'est pour nous les seules revendications à mettre en avant si on veut vraiment que s'arrêtent ces catastrophes humanitaires. Alors vous allez me dire, mais on va pas pouvoir héberger tous ces gens-là. C'est complètement crétin de croire ça. C'est-à-dire que généralement, les populations se sont toujours régulées. Se sont toujours régulées elles-mêmes par rapport à leur subsistance, par rapport au fait qu'il fallait absolument subsister. Et pour subsister, ils vont pas atterrir à 100 millions en France. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se passe, évidemment. Généralement, d'ailleurs, quand les gens viennent quelque part, ils sont toujours dans leur entourage, dans leur famille, d'autres personnes qui sont venues avant eux. Donc, ils ont des endroits pour atterrir ou ne pas atterrir, d'ailleurs, parce que quelquefois, on leur dit, leur famille leur dit, ne venez pas, c'est pas la peine, vous venez ailleurs, ou allez ailleurs, mais voilà, ça se régule comme ça, c'est tout à fait normal.
Et puis en plus, il faut souligner, bon alors, on le dit souvent, hein, mais plus de 80% des déplacements de population se font d'abord dans l'hémisphère sud. Et c'est à peine sur 15% de ces déplacements de population qui montent, entre guillemets, dans l'hémisphère nord. Et sur ces 15% qui se sont déplacés sur l'hémisphère nord, la France, l'année dernière, n'en a accueilli que 4%, quoi. Donc c'est vraiment ridicule. Ça représente quelques dizaines de milliers de personnes à peine. Nous sommes un pays qui est constitué officiellement de 66 000 lions.
68.
68.
68, ouais. Et 400 000. Et 68, oui, j'ai vu ça.
68 millions d'habitants sur le dernier recensement. Qu'est-ce que c'est qu'une société ? Est-ce que c'est un corps, on va dire, nationalement pur, qui se régénère par la naissance et par la démographie ? Ou est-ce que c'est la constitution d'un groupe social qui se fixe et se donne des règles pour vivre ensemble ? Et justement, normalement, la nation, en tous les cas telle qu'elle est définie dans les dogmes libéraux républicains, c'est pas une question de race, d'ethnie, de couleur. C'est une nation politique. C'est pas une nation identitaire. Et le fait de mettre des obstacles et d'empêcher d'aborder ces questions de manière sereine et, on va dire, tout à fait calme, enfin tranquille, quoi. Ça renforce le fait de penser que la société française est une nation identitaire. On le rappelle, il y a un Français sur quatre qui a au moins un grand-parent étranger.
Étranger, ouais, c'est ça.
Donc ça veut dire que les gens, quand ils sont là, ils se mélangent, ils s'assimilent, ils prennent un peu, ils prennent beaucoup, ils en laissent pas mal non plus. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a même pas de peur à avoir. Tu parlais de la liberté de circulation. En plus, les gens, ils circulent, quoi. Hein.
Et d'installation, liberté de circulation.
Et d'installation, ouais. Il y a des soldes migratoires, il y a des gens qui partent, qui reviennent, tout le monde n'a pas vocation à venir dans ce pays de merde et dans cette société de merde qui est de plus en plus dégueulasse et de plus en plus dure, quoi. Faut arrêter de croire que l'étendard français, il fait briller les yeux des populations.
D'ailleurs,
dans le monde.
D'ailleurs, il y a plus de Français à l'étranger qu'il y a d'immigrés en France.
C'est ça.
Hein? Ça, ouais. Par contre, personne n'en parle. C'est-à-dire qu'effectivement, si les autres États étaient méchants, ils nous renverraient tous les Français si on voulait fermer nos frontières.
Ah, mais à un moment, il va y avoir aussi des problèmes de réciprocité qui vont être assez difficiles, ne serait-ce que par exemple pour les prestations sociales. On parle de règles sur la durée nécessaire pour pouvoir prétendre aux droits d'allocation type familial, APL, etc. S'il y a une réciprocité dans les pays dans lesquels les Français sont installés, ça va faire très 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 mal. Et on peut tout à fait imaginer que
il y aura une
rétention, c'est sûr. D'ailleurs, entre guillemets, pour donner quand même un petit peu de profondeur à tout ça, on est en train de nous faire passer un droit, une allocation qui est universelle, en un revenu. Attention, hein, les pauvres et les cassos comme moi, un revenu, c'est pas une allocation. Et une allocation, c'est pas un revenu. Une allocation, c'est un droit. C'est pour ça qu'il est universel. C'est pas prétendre avoir un droit. Il faut pas se constituer, avoir marché sur un pied, parler trois langues, etc. Non, un droit, c'est universel. Un revenu, c'est différent. C'est en échange de quelque chose. Par exemple, un travail ou en échange de choses ou d'engagements qu'on a pris vis-à-vis de la collectivité qui nous donne ce revenu. Et c'est aussi dans ces mots et dans ces thématiques qui résonnent à l'intérieur de cette loi immigration, qu'on se rend bien compte que finalement ça touche pas que les immigrés, ça touche l'ensemble de la société, et c'est aussi une manière de faire société. En tous les cas, c'est une manière aussi d'attaquer les droits de tout le monde, quoi. Parce que si on commence à mettre des conditions ou des droits spécifiques aux allocataires, aux allocations, bah, qui demain pourra contester le fait qu'on va nous demander, je sais pas moi, par exemple, de balayer les endroits où on habite pour pouvoir bénéficier des APL ou ce genre de choses, quoi. Ça, c'est aussi des choses qui malheureusement, à l'intérieur de la manifestation abordée ou dimanche, ont pas du tout été évoqués. C'est-à-dire que le projet politique et le projet social qui est dans la loi immigration et asile en France et dans ce que tu définissais au niveau à l'échelon européen, ça impacte vraiment tout le monde, quoi. Et c'est en ça que c'est vraiment politique, et c'est pas du tout quelque chose d'humanisme, même si l'humanisme, on va pas cracher à la gueule des humanistes, quoique. Mais c'est pas suffisant pour embarquer tout le monde, quoi.
Bah c'est sûr que c'est un problème politique, fondamentalement politique. Et de toute façon, quelque part, c'est scandaleux parce que il y a la réalité et il y a des gens qui nient la réalité. C'est-à-dire que et te racontent n'importe quoi. Je parle pas que de l'extrême droite, hein. Je parle aussi de la gauche quand elle était au pouvoir. Bon, l'extrême droite, parlons-en justement. Vous savez que l'extrême droite est au pouvoir en Italie.
Oui.
Une certaine Meloni, n'est-ce pas? Et que va faire Meloni dans les prochaines années? Prochaines, je dis bien 2-3 ans là. Elle va régulariser 450 000 travailleurs immigrés. Eh oui, parce que effectivement l'Italie en a besoin. Demain, à mon avis, la France aussi aura besoin, elle en a déjà besoin aujourd'hui. Et c'est incroyable, quoi, de voir les contradictions que peuvent avoir ce type de gens, ce type de politicards et de fachos, alors que ça leur pète à la réalité,
il y a le mur du capital et l'Italie, c'est le pays qui, en proportion, hein, bien sûr, a la population la plus vieille en Europe après la Grèce. Avant la Grèce, pardon.
L'Espagne n'est pas loin, je crois.
L'Espagne, ça va encore. Après, il y a l'Allemagne. Donc c'est malheureusement, enfin c'est des pays qui vont être confrontés au cours de la décennie qui arrive à un gros problème de main d'œuvre et un gros problème de trouver des gens pour faire tourner leur économie. Mais heureusement, il y a les immigrés et donc finalement, il y a les bons et il y a les mauvais. Et là, tu l'as dit, c'est quand même le retournement assez spectaculaire. Alors c'est pas du tout une faveur, hein. C'est parce qu'elle est obligée et les conditions de régularisation, il va falloir les observer de très près, mais à mon avis elles vont pas être non plus mirobolantes, hein,
comme en France, ils vont essayer de faire en sorte que les migrants sont là pour travailler et dès que c'est fini, dès que le contrat de travail est fini, c'est dehors.
Voilà
où on en est. Ouais. Bon, on va peut-être faire.
Mais non, il y a plus de musique. Alors,
Non, je crois qu'on va parler d'autre chose là.
Ouais, bah, parce que bon, cette actualité quand même en début d'année, en fin d'année, elle est particulièrement déprimante.
Ouais.
Je voulais vous parler du chômage, hein, puisque nous savons que vous êtes nombreux derrière le poste et devant le poste aussi à être au chômage, mais finalement j'ai décidé quand même de terminer l'émission sur une note un peu plus positive. On reviendra sur le chômage et sur cette horreur qui est devenue France Travail et sur le fait que on n'y comprend plus rien du tout. Mais que c'est normal, c'est fait pour éviter qu'on puisse faire valoir nos droits. Donc je voulais terminer sur une note un peu plus d'espoir pour faire comprendre à nos auditeurs que la résistance, le courage et les êtres humains, ils sont toujours capables, même dans les moments les plus affreux, à se mettre en branle pour à la fois défendre leur dignité et aussi des conceptions du monde qui sont un peu plus fraternelles et un peu plus courageuses. Alors évidemment, ce genre de nouvelles, vous n'entendrez absolument pas parler sur les médias mainstream parce que on n'a pas le temps. Et puis ça contredit le discours officiel et je voulais vous parler d'un jeune Israélien qui s'appelle Tal Mitnick, qui a 18 ans et qui nous a mis une grosse leçon de dignité et de courage dans la tronche, puisque Tal est parti en prison. Il a refusé de faire son service militaire et il n'a pas eu le droit de faire l'objection de conscience. Donc il a été obligé de partir au service militaire. Il a refusé et donc lorsqu'on refuse en Israël, on peut être condamné dans un premier temps à un mois de prison, puis ensuite si on refuse à nouveau, c'est 4 mois et puis ça peut aller de plus en plus loin. Alors effectivement, le service militaire en Israël, c'est quelque chose de très important. C'est obligatoire pour tous les citoyens. Ça dure 32 mois pour les garçons et 18 pour les filles. Et pour pouvoir être exempté, si effectivement on est considéré comme étant en bonne santé, on doit passer devant une commission d'objection de conscience. À noter que certaines parties de la population israélienne, comme les ultra-orthodoxes, sont dispensés de ce service militaire depuis quelques années et l'arrivée de l'extrême droite israélienne et des partis sionistes messianiques, sionistes religieux, à l'intérieur de la Knesset. Et Tal, donc, à l'intérieur d'une interview pour un magazine qui s'appelle Plus Sud 972, qui est un magazine qu'on trouve en ligne, un journal indépendant qui réunit des journalistes palestiniens et israéliens, a expliqué que sa motivation. Donc Tal est quelqu'un qui s'est politisé au cours des manifestations contre le gouvernement Netanyahou au cours des dernières années. Et Tal déjà auparavant était pas forcément branché par le service militaire. Il se considère comme un pacifiste, mais il a estimé que prendre ce parti aujourd'hui, c'était une prise de position politique qui lui permettait de manifester son soutien à la population israélienne. C'est pourquoi palestinienne. Oui, mais aussi israélienne, puisque Tal a été accompagné le jour de son incarcération par une cinquantaine de personnes qui sont eux aussi des refuseniques ou des pacifistes et compte tenu à manifester leur solidarité, mais aussi la possibilité pour la population israélienne qui serait en désaccord avec les horreurs qu'on commet en leur nom de voir qu'il y a des choses à faire. Et Tal, il a une maturité et une conscience politique assez puissante puisque en acceptant son incarcération, il veut envoyer un message que non seulement on peut s'opposer à la politique de Netanyahou, on est en droit de le faire, et on a besoin enfin la société israélienne plutôt a besoin d'une autre voix, surtout après le 7 octobre, et que celle qui a été choisie à la fois par Netanyahou et par les dirigeants israéliens est totalement criminelle et absurde, quoi. On est assez frappé par ce que ce jeune garçon a été capable de dire. Bon, alors il est aussi tout à fait lucide, hein, c'est-à-dire que il sait très bien il a discuté avant avec d'autres personnes qui avaient pu être incarcérées pour leur refus de service militaire. Donc il sait que la situation d'incarcération, si c'est pas une colonie de vacances, il est quand même capable de s'en sortir. Et puis Tal décrit quand même les pressions qu'il a subies. Je vous parlais de le comité de conscience, donc c'est l'organisme qui étudie les cas de conscience, qui est composé de militaires, de juristes et d'une universitaire, et il raconte que l'enquêtrice de la pré-commission, donc avant il a des entretiens pour expliquer pourquoi il demande l'objection de conscience, l'enquêtrice a été très agressive puisqu'elle a remis en question sa non-violence parce que elle considérait que son objection était une opposition aux actions du gouvernement et à l'occupation. Et donc, en raison de ses opinions à Tal, elle a dit que Tal n'était pas un objecteur de conscience, mais un militant politique. Et finalement, Tal a retourné l'argument, puisque lorsqu'il est passé devant la commission, il a rencontré effectivement une certaine hostilité. Et il a décidé il allait assumer effectivement son positionnement politique. Il signale d'ailleurs que il a reçu aucune explication au refus de son objection de conscience, qu'il y a seulement des militaires qui sont venus lui apporter la décision, et que de toute façon c'est pas grave, il s'était préparé mentalement et psychologiquement à cette incarcération, et que il sait très bien que derrière lui il y a des dizaines et des centaines de personnes, des milliers même, que son acte par la publicité qui est fait on va dire au niveau national israélien et aussi au niveau international, puisque nous en parlons ici, lui donne de la force et lui donne une cohérence dans son incarcération. Et puis il se donne lui aussi parce que c'est un jeune homme de 18 ans qui vit dans une société terrible, la société israélienne, dans un pays qui est en guerre, dans un pays qui n'est pas du tout en sécurité. Il se donne aussi un espoir et une possibilité quand il déclare les sociétés israéliennes et palestiniennes sont devenues esclaves de la violence politique, économique, écologique et conjugale. Il ne peut pas y avoir de solution militaire à un problème politique. Tal, dans sa lettre ouverte, conclut simplement en disant « J'aime ce pays, ses habitants. Je me sacrifie pour que ce soit une terre où l'on puisse vivre dans la dignité. » Et je trouve que ce message de la part d'un jeune homme de 18 ans, dans des temps où on est parfois un peu démuni, ça nous renvoie à notre responsabilité individuelle, à notre responsabilité collective, et j'espère qu'on va pouvoir trouver des moyens d'entrer en contact, avec ce jeune homme pour lui témoigner de notre solidarité et du bien que ça nous fait d'entendre des choses comme ça, et puis de lui dire qu'il n'est pas tout seul. On va chercher, on va forcément réussir à trouver quelque chose, et on vous tiendra au courant, parce que je pense que ne recevoir ne serait-ce qu'une carte postale ou un petit témoignage de soutien, ça ne peut que le conforter et lui donner de la force pour continuer, et espérons-le que son exemple soit copié,
ouais.
Se multiplie à l'intérieur de la société israélienne, puisque une des choses qui était très importante lors des manifestations contre Netanyahou avant le 7 octobre et avant la guerre, avant l'agression de l'armée israélienne contre la population de Gaza, c'était qu'il y avait des centaines et des centaines, voire des milliers de refuseniks et de réservistes qui avaient manifesté et avaient noté, déclaré leur intention de ne pas servir l'armée en cas de conflit. Que malheureusement l'unité nationale a été particulièrement forte face à l'émotion qu'a suscité et à la colère qu'a suscité l'attaque du 7 octobre, et que cette unité nationale, elle peut aussi se fissurer de temps en temps, et que ça, c'est sûr que c'est pas sur France 2 ou sur BFM que vous entendrez des témoignages ou que vous aurez des portraits de la famille de Tal Mitnid. Et heureusement, c'est pour ça que vous écoutez Tal Mitnid, pardon, j'ai écorché son prénom, mais c'est pour ça que vous écoutez Les Grégores et que vous pouvez avoir ce type de nouvelles.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron ?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Grégor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue, à Montpellier, Canastu, à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net. et sur le blog Le Chat Noir 51.